Christine.
Alors, moi, bon, je suis Christine, je suis bibliothécaire, donc déjà de profession et puis de goût personnel, une accro aux livres et particulièrement aux littératures de l'imaginaire depuis très longtemps, en fait. Et j'ai fait une rencontre heureuse et qui a permis la mise en place de cette rencontre aussi, passerelle au-delà des genres, depuis déjà quelques années. Donc, et la rencontre, si je puis dire, s'est faite avec donc Alan, qui est là aussi. Donc je le laisse compléter.
Alors Alan, qui es-tu?
Moi je suis sur Le Mans depuis quelques temps et responsable du site Fantastinette. Mm-hmm. Et donc mon but est de faire découvrir la littérature de l'imaginaire française. Et donc ça me semblait assez sympa de proposer une rencontre sur Le Mans et l'Espal était le lieu adapté.
Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, cet événement se situe à la médiathèque de l'Espal. Donc médiathèque du réseau des médiathèques Mancelles, c'est ça? Où tu travailles, Christine, et du coup, cet événement passerelle, c'est quand déjà?
Alors, ça a lieu chaque année au mois d'avril. Mm-hmm. Enfin, quand je dis chaque année, on a commencé en 2009. C'est toujours fin avril. On a réussi à caler une date en dehors des grands rendez-vous et des grands salons du livre. Voilà, et donc c'est effectivement à la médiathèque de l'Espal. On a une petite salle qui accueille volontiers les auteurs et le public qui veut bien s'y déplacer.
Donc, c'est libre d'accès.
Tout à fait, hein, ouvert à tous.
Avec ou sans carte?
Avec ou sans carte, ça n'a aucune importance. D'ailleurs, c'est quand je dis ouvert à tous, c'est ouvert aux accros et à ceux qui ont envie de découvrir les littératures de l'imaginaire.
Oui, on peut s'y retrouver quand on n'y connaît rien, par exemple.
Voilà, tout à fait.
Et donc, cet événement, cette année, il a lieu la semaine prochaine, c'est ça? Donc, samedi
23 avril.
Ouais.
À 14h30.
Uh-huh. Dans la salle des comptes, c'est ça?
Voilà, la salle des comptes de la médiathèque de l'Espal.
Uh-huh. Et alors, que va-t-on pouvoir y voir, y trouver? Que va-t-il s'y passer? Combien de temps ça va durer? Tout ça, tout ça.
Alors, cette année, on va parler du steampunk.
Ouais.
Donc, on en reparlera un peu plus tard,
ouais.
Je pense. Donc, on fait venir Johan Elliott, je ne sais toujours pas comment.
une question à lui poser samedi prochain.
Et Fabien Clavel, qui ont tous deux sorti des livres qui sont reconnus dans le genre.
D'accord. Des romans ou...
Des romans.
Ouais.
Voilà, alors celui de Fabien Clavel est un peu particulier. On peut dire qu'il est entre la nouvelle et le roman. Ça dépend comment on peut le... Comment on le prend?
Ouais.
Voilà, c'est un ensemble de petites histoires avec une trame générale. Une rencontre autour de la thématique et aussi une rencontre d'auteurs, puisque les visiteurs auront l'occasion de discuter tranquillement avec les auteurs après le débat.
D'accord, ouais. Il y a des échanges qui sont prévus avec des questions qu'on peut poser, tout ça.
Exactement.
Ça, c'est bien, parce que quand les auteurs sont loin et qu'en tant que public, on ne peut pas aller vers eux, il y a un petit côté hyper frustrant. Même si les questions et les échanges sont intéressants avant, c'est pénible quand on ne peut pas accéder à l'auteur après.
C'est jamais le cas avec les auteurs de l'imaginaire.
Oui, c'est vrai, ils sont peut-être plus faciles d'accès que les autres.
Oui, ils sont toujours très contents de rencontrer leur public. Et puis, on espère que l'inverse est vrai aussi, que le public sera content de les rencontrer.
Ouais.
Parce que c'est toujours là, du coup, hyper facile. Quoi. Ils sont, on peut leur serrer la main, leur parler en toute simplicité. C'est un vrai bonheur.
Et alors, il y a deux auteurs qui viennent samedi. Comment s'est fait le choix de ces deux auteurs? Est-ce que c'est une rencontre particulière? Est-ce que c'est à la lecture de leurs œuvres? Ou est-ce que c'est eux qui vous ont contacté? Peut-être que comme ça fait plusieurs années que l'événement a lieu, peut-être que maintenant on vous contacte aussi pour venir, je ne sais pas.
Alors voilà comment s'est fait le choix en fait pour Johan Elliott. Alors moi je prononce ça comme ça, son nom. Il a sorti, enfin les éditions Mnemos ont sorti sa trilogie de la Lune.
Ouais.
Un superbe bouquin donc, qui réunit ces trois volumes qui sont parus en fait au début des années 2000. Et pour Fabien Clavel, c'est en fait son livre qui est paru fin de l'année 2015 donc,
oui.
Et qui est un policier matiné de steampunk, on va dire, voilà.
D'accord.
Et donc j'ai eu un gros coup de cœur pour ces deux bouquins-là. J'aimais déjà les deux auteurs, mais là j'ai eu un gros coup de cœur et j'ai eu envie de faire découvrir, d'aider le public à découvrir ce genre-là entre guillemets.
Finalement, ça se passe aussi simplement que ça. On aime un livre, on appelle l'éditeur ou l'auteur directement et on leur dit est-ce que vous voulez bien venir nous voir?
Ça s'est passé comme ça, par mail, oui. Ou lors de rencontres dans un salon.
Oui, ouais, c'est super. Ça. C'est aussi là où l'humain rentre en jeu. C'est-à-dire que ce que nous, on peut projeter sur des auteurs, sur des œuvres, le côté un petit peu inaccessible, en fait, on se rend compte que quelquefois, ils se livrent tellement dans leurs œuvres qu'ils ont envie d'en parler aussi, quelque part.
Complètement.
Ouais. Donc, tu disais que c'était la... Ça a commencé en 2009, c'est ça, la première édition de Passerelle. Cette année, steampunk. Juste pour resituer, ça racontait quoi les thématiques précédentes
Alors sur la première, on a voulu casser un peu l'habitude. Alors c'est vrai que cette année, on a deux hommes, mais la première année, on avait que des femmes. Mmh. Voilà, pour opposer, parce que le genre de l'imaginaire est souvent considéré comme uniquement masculin,
c'est vrai.
Ce qui est un tort. Et donc on avait invité Catherine Dufour, Isabelle Varange, Anne Guéraud. Donc,
ouais.
Et ce sont des femmes qui ont parlé de littérature d'imaginaire, donc avec leur regard.
Ouais.
On associe à tort la science-fiction, littérature de l'imaginaire, comme les comics par exemple, au côté geek. Jeux vidéo, et qui dit geek dit forcément homme, garçon, alors que
oui.
Déjà c'est faux. Il y a aussi des geeks femmes, et puis on n'est pas forcément geek quand on aime la littérature de l'imaginaire.
Et on le répète souvent ici, la littérature n'est pas genrée.
Exactement.
La lecture, le plaisir de lecture, encore moins. Donc ça c'était la première année, et ensuite on a eu des sujets vastes et variés.
Alors ensuite on est parti en voyage en Uchronie avec un trio d'hommes cette fois-ci.
Alors pour ceux à qui ça ne parle pas, l'Uchronie, est-ce que juste une petite définition?
L'Uchronie, c'est un temps qui n'existe pas.
C'est ça.
D'accord. Voilà, c'est l'histoire racontée par ceux qui l'ont perdu hein, d'une certaine façon.
D'accord. Donc vaste sujet. L'Uchronie avec, tu disais, Pierre Bordage.
Pierre Bordage, Philippe Vard et Alain Grousset.
Ouais. D'accord, oui.
Des pointures.
Oui, tout à fait. Ensuite, on a eu Jean-Luc Marcastel, entre autres. Hein, et là, on parlait d'imaginaire et de roman. Donc, comment écrire pour adultes, pour les jeunes? Mm-hmm. Est-ce que c'est pareil? Comment on s'y prend? Comment on ressent les choses? Voilà.
Alors ça, c'est une question intéressante, parce que du coup, ce rendez-vous-là de Passerelle, il est pour tout le monde, ados, adultes, il n'est pas que pour les adultes ou pas réservé aux ados?
Non, ados, adultes.
Non, parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui court aussi dans l'imaginaire des gens, c'est que la science-fiction, c'est plutôt pour les ados, la littérature...
Sérieuse.
Young adulte, voilà, c'est ça. Et pas tellement pour les adultes, alors que c'est oui, complètement faux, hein, comme tous les préjugés d'ailleurs, mais...
Voilà, si on lit du Pierre Bordage, il y a de l'Ayerdal, en citant des auteurs français, du Pierre Pevel, etc. On n'est largement pas dans de la littérature jeunesse.
Ouais.
Et cette année-là, on avait eu la discussion sur le young adulte, justement, et la raison éditoriale de cette nouvelle classification qui était assez intéressante.
Oui, c'est vrai que ça, c'est une vaste question encore. C'est vrai, pourquoi est-ce qu'on a créé ça? Ça veut dire qu'il manquait quelque chose. Enfin, il y avait peut-être un vide à combler entre ado ou adulte, ou alors c'est plus pour vendre.
C'est marketing.
Ouais, marketing. C'était une des possibilités. Et alors, la suite, oui, excuse-moi.
Oui, non, je t'en prie, vas-y.
Alors ensuite, nous sommes partis vers des cités et des mondes utopiques avec, entre autres, Joël Vintrebert et Mathieu Gabory.
Alors c'est pareil, l'utopie, un petit rappel peut-être de ce que c'est, parce que peut-être que pour certains c'est pas si évident que ça.
L'Uchronie, c'est le temps qui n'existe pas, l'utopie c'est le lieu qui n'existe pas.
Voilà. En fait c'est très simple hein, dit comme ça.
Exactement.
Ça paraît beaucoup plus compliqué quand on entend les mots, mais en fait c'est assez simple.
Alors, on a fait une petite pause après pour l'année suivante pour cause de travaux à la médiathèque, et puis on a pris, avec cette fois deux invités seulement, Antoine Rouault et Justine Niogret. Et là, c'était Fantasy Made in France.
Uh-huh.
Parce qu'il ne faut pas forcément les voir en dehors de nos frontières. On a de très belles plumes en France.
Et la fantasy, alors, qu'est-ce que c'est?
Est-ce qu'on reprend la définition de Catherine Dufour sur sa première session? Vous rentrez chez vous et votre chat parle. Si dans votre monde c'est normal, c'est de la fantasy. S'il a eu une opération, c'est de la science-fiction. Et si vous ne savez pas pourquoi, c'est du fantastique.
Waouh!
Ah ouais,
très belle définition.
Je ne sais pas si elle est d'elle ou si elle l'a reprise, mais en tout cas.
Ah ouais, non, mais c'est très parlant et très imagé pour le coup.
C'est très clair.
Bon, bah super.
Elle nous a marqué, moi je m'en souviens aussi. Donc.
Ouais, non, c'est à réutiliser.
Choisissez le monde dans lequel vous vivez, maintenant vous savez comment choisir. Ouais.
Voilà. Sachant que, évidemment, il n'y a aucune frontière étanche.
Oui, bien sûr. Il y a des passerelles.
Ce
sera l'émission où on va essayer de placer à fond celui-là, parce que quand même c'est le moment.
Et donc après
on arrive à l'an dernier où là c'était le post-apocalyptique.
Voilà, les zombies sont à la mode.
Oui, c'est vrai.
Ça marche bien, donc essayer de discuter du phénomène, pourquoi ça plaît. C'est quand même pas très ragoûtant. Et voilà, tout ce qu'il y a derrière, donc avec tout ce qui est nucléaire, etc. Donc, l'évolution aussi du post-apo par rapport aux différentes époques.
c'est toute la symbolique qu'il y a derrière.
Exactement.
Un zombie, c'est pas juste un mort-vivant.
Et alors, du coup, la question, enfin, une des questions que je voulais vous poser, c'est déjà dans les auteurs invités, et c'est vrai que par rapport à ce dont vous parliez, vous avez essentiellement, voire uniquement, des auteurs français. Est-ce que c'est un choix, enfin, est-ce que c'est un choix marqué, ou est-ce que c'est aussi par confort ou facilité, enfin,
ou aussi pour des questions de budget tout simplement, parce que ça coûte forcément plus cher,
rassement économique.
Non, mais on va dire la vraie raison, c'est qu'il y a beaucoup, enfin, le but est quand même de faire découvrir des auteurs français. Enfin, en tout cas, moi, c'est la volonté. Donc, on en a beaucoup en France qui sont de qualité. Ouais. Donc, pourquoi s'en priver?
C'est une bonne raison.
Oui, puis pour faire découvrir une littérature qui est peut-être mal connue ou peu connue, si en plus il y a la barrière de la langue pour certains, ça peut être un peu compliqué de faire rentrer les gens si on a un auteur qui parle anglais ou il y a forcément un traducteur qui va interpréter ce que l'autre dit. Ça fait une barrière en plus, quoi. Si l'idée c'est déjà de casser les barrières, ça peut être bien de commencer en français.
Oui, d'autant plus qu'on a la moitié du public qui n'est pas adepte des littératures de l'imaginaire. Enfin, à peu près la moitié, je dirais.
Oui, c'est ça. Donc il y a quand même des gens qui viennent, qui n'y connaissent rien et qui justement viennent par curiosité pour découvrir, pour s'informer sur le genre.
Voilà, et qui restent.
Et qui restent. Ouais, ça, c'est
important. J'imagine que justement d'année en année, vous avez des habitués. Enfin, le mot circule, l'événement est attendu.
On arrive petit à petit à faire circuler les informations et puis à pêcher, si je puis dire, des deux nouveaux futurs lecteurs. Donc il y a un petit groupe qui s'agrandit et puis bon, on essaie de passer par les moyens de communication, tous ceux qui peuvent exister pour faire connaître le rendez-vous.
D'où votre présence ici aujourd'hui.
Ouais.
On va faire une première petite pause musicale et on revient après pour parler de littérature de l'imaginaire, des auteurs invités, de steampunk. Qu'est-ce que c'est le steampunk? On n'en a pas encore tout à fait parlé.
Non.
Et on aura peut-être la réponse. Je l'espère.
Et en attendant, on va s'écouter, alors que je ne sais pas.
The Avalanches avec Frontier Psychiatric.
Merci Lydie pour combler mes lacunes en anglais.
C'est mon morceau, je choisis.
Mr. Kirk, Dexter's in school.
I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system.
Mr. Kirk, I'm an offended you to learn Dexter's truancy, but surely expulsion is not the answer.
I'm afraid expulsion is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane.
Psychosomatic.
That boy needs therapy.
Purely psychosomatic.
That boy needs therapy.
You're lying down on the couch.
What does that mean?
You're a nut. You're crazy in the coconut.
What does that mean?
That boy needs therapy.
I'm gonna kill you.
That boy needs therapy.
Pranigazoo, let's have a chew. I wanna count three.
That boy needs therapy.
He was white as a sheep.
And he also made false teeth.
the matter?
That boy needs therapy.
You're lying down on the couch?
What does that mean?
You're a nut. You're crazy in the coconut.
What does that mean?
That boy needs therapy.
I'm gonna kill you.
That boy needs therapy.
Brannigazoo, let's have a chew. I wanna count three.
That boy needs therapy.
He was white as a sheep.
And he also made false teeth.
Sometimes a parrot talks.
Sur Radio Alpa 107.3 et nous retrouvons Hélène et Lydie pour Passerelle.
Et oui, Passerelle qui rencontre Passerelle. Donc, on est quatre sur ce plateau et on est quatre de Passerelle. Et on vous parle de littérature de l'imaginaire, de steampunk en particulier, mais on va déjà essayer de dégrossir rapidement. Littérature de l'imaginaire, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Pourquoi déjà? Pourquoi un événement autour des littératures de l'imaginaire? Alan, Christine.
Eh bien, écoutez, c'est déjà par constatation, je trouve que sur la place du Mans, à ma connaissance, je peux me tromper, il n'y a pas d'autre moment où on peut rencontrer des auteurs de littérature de l'imaginaire, mis à part la 25e heure sur le stand de la librairie et éditeur La Talente.
C'est vrai.
Voilà, ça manquait un peu.
Oui, sûrement. Donc, il y a du public. Enfin, il y a des lecteurs du genre. Donc, oui, sûrement, ça doit manquer. Oui.
Sachant que le public qui lit déjà les littératures de l'imaginaire en parle très très facilement. Je l'ai constaté aussi bien en médiathèque qu'en librairie. On ne connaît pas la personne, mais elle prend un bouquin qu'on connaît. On va automatiquement lui dire allez-y, c'est super, j'ai bien aimé. Enfin, le contact se fait très très facilement.
Il y a une envie de partager, quoi.
Voilà, exactement. C'est une envie de partager.
Ouais, donc il faut sauter sur l'occasion.
Alors, autrement, en termes de définition, c'est assez compliqué. La littérature de l'imaginaire, c'est quand même très vaste. On met un peu tout dedans, SF, fantastique, fantasy, conte. Voilà, je pense qu'en France, on a historiquement une culture très riche. Fantasy, on a Merlin, qui date quand même, le Chrétien de Troyes. Ouais. En fantastique, on a du Maupassant.
C'est vrai.
Et en SF, on a du Jules Verne. Donc, je pense que c'est très ancré. Alors, je donne ces noms-là.
Volontairement aussi,
parce que on a toujours l'impression, on oppose souvent la littérature classique et la littérature de l'imaginaire.
Or le genre, il s'est développé d'abord dans les auteurs classiques, enfin en tout cas ceux qu'on connaît aujourd'hui, quoi.
Mais notre problème, c'est pas Tolkien.
Mais notre problème, c'est qu'on aime bien mettre les gens dans les cases. En France, ça nous rassure un petit peu, donc voilà. Les genres, ils voient, alors ça c'est ça. Donc voilà, c'est bien de dire que effectivement les auteurs classiques, ils ont fait de la littérature de l'imaginaire avant même qu'on mette le mot dessus, quoi.
Voilà, donc imaginaire pour dire on n'est pas totalement dans la réalité, il y a un petit quelque chose qui va pas, qui est différent. Après je sais pas.
Après,
si t'as quelque chose à
dire. C'est ouvert. Donc oui, sur les littératures de l'imaginaire, on parlait aussi de votre plaisir de ce genre, de la lecture de ce genre. Qu'est-ce que vous en retirez, que vous ne retirez peut-être pas ailleurs, dans d'autres genres?
Un décalage. quand on prend de la science-fiction, bioéthique, etc., on a un décalage par rapport à la réalité, on voit ça sous un nouvel angle. Donc voilà, de la même façon, toutes ces littératures-là ne sont pas des littératures, des sous-littératures sans intérêt. Il y a fréquemment, pas systématiquement non plus, comme dans toute littérature, des messages qui peuvent passer.
Bah, et puis politiquement, enfin, on le sait, hein, des George Orwell, des Ray Bradbury, ils sont venus complètement, alors ce qu'on appelle la dystopie, enfin, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est vrai que ce sont des genres qui interrogent aussi sur notre monde présent et sur nos interactions sociales, politiques.
Ouais. Et ce décalage permet d'aborder aussi ces questions-là de façon moins frontale, finalement. Parce que quand on aborde ça dans un roman où tout est ancré dans le réel, mettre le doigt là où il y a des soucis, c'est très frontal et ça peut être très violent pour les gens. Alors que le faire passer dans le côté décalage et littérature de l'imaginaire permet peut-être de faire passer des choses ou d'amorcer une réflexion, en tout cas, moins agressive peut-être pour le lecteur, sans s'en rendre compte un peu. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il y a un côté comme ça, en tout cas, je trouve, dans le très peu que je connais. Très très peu.
Et toi Christine, qu'est-ce que tu en retires des littératures de l'imaginaire?
Alors je suis d'accord d'abord avec ce qu'Alan et puis Hélène ont dit, et moi j'aime bien justement le côté visionnaire, particulièrement de la SF. Et à ceux qui disent ce sont des élucubrations, je réponds non, pas du tout. Donc je rejoins les définitions qui ont été données là. Moi ce que j'en retire, ce que j'aime surtout, c'est que c'est infini, c'est très très riche et ça n'en finit pas de m'étonner par la richesse que je découvre dans ce vaste vaste domaine quoi.
Et alors pour s'y mettre, est-ce que là je parle en tant que complètement novice, est-ce que on a besoin de clés particulières ou est-ce que on peut juste y aller en ayant envie et puis commencer un peu par n'importe quoi, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'il vaut mieux... je rejoins la discussion qu'on a eue sur le comics il y a 2-3 émissions, où on se posait la question, pour rentrer dans le comics, est-ce qu'il y a des œuvres par lesquelles il vaut mieux passer et d'autres qu'il vaut mieux éviter ? Voilà, de passerelle. Merci, deux.
On va faire les comptes.
Ouais, ou est-ce que il suffit juste d'avoir envie, on y va, on se lance et puis on tente, quoi.
On peut, mais c'est risqué, je dirais.
Ouais.
Donc, vaudrait mieux... À mon avis, passer par certains bouquins qui vont aider à pénétrer dans les différents domaines.
Alors, est-ce que vous avez des exemples du coup à nous donner ?
Alors, il y a un certain nombre d'auteurs qui sont quand même très faciles d'accès.
Ouais.
On a cité tout à l'heure Pierre Bordage. Je pense que c'est typiquement un auteur par lequel on peut commencer.
Ouais.
Voilà, il y a Heyerdahl. Alors j'en parle parce que j'ai reçu ce matin la réédition de My Oasis, qui est très très intéressant. Ça, typiquement, c'est un roman court, engagé.
Ouais.
Et voilà, je vais pas raconter l'histoire, mais on est sur de l'écoterrorisme.
D'accord.
Enfin, socio-terrorisme. Enfin, c'est un peu particulier, donc je vous laisse découvrir. Et en fantasy, moi j'aime bien dire quand même Pierre Grimbert. Qui a relancé un peu une forme de fantaisie à la française.
D'accord. Des idées de
Secret
titre,
de J.
Secret de J. D'accord. Et toi, Christine, est-ce que t'as
moi, Pierre Pével, je pense en premier à Pierre Pével, parce qu'en plus, donc, dans sa trilogie Les Lames du Cardinal, j'y ai retrouvé le plaisir que j'avais eu à découvrir les Trois Mousquetaires quand j'avais une douzaine d'années. Donc là, il y a la richesse, la finesse de l'écriture, le côté récit très enlevé, le panache, l'aventure. Là, je suis vraiment tombée dedans. Donc, voilà, je trouve très facile à lire.
D'accord.
Et pour la fantasy.
Et alors, j'ai pas rebondi tout à l'heure, mais tu disais Tolkien, c'est pas de la fantasy. Alors c'est
non,
quoi
Non, si. Et Tolkien, c'est de la fantasy. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on a tendance à focaliser sur Tolkien, notamment avec les films, Le Seigneur des Anneaux, en se disant, voilà, c'est ça. Le livre est quand même très difficile d'accès.
Oui, complètement.
Oui, voilà. Surtout le premier.
On faut s'y reprendre un certain nombre de fois. Je crois que moi, je l'ai lu sur 6 ans. Alors, pas de manière continue, évidemment.
Moi, je l'ai lu en un an, mais j'ai accepté de ne pas lire les 50 premières pages.
Ouais.
voilà. On pense toujours que c'est Tolkien qui est à l'origine de la fantasy. Il a fait une œuvre énorme, mais il y a d'autres auteurs.
Oui, bien sûr. Ouais. Lui, il a créé un univers, une langue, il a vraiment créé un truc, mais il n'est pas le seul à l'avoir fait. Quoi. Bah,
son collègue Lewis, avec le cycle de Narnia, c'est pareil.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Et il y en a, alors en plus, là, on prend des littératures qui sont accessibles aussi aux ados, que ce soit Narnia ou Le Seigneur des Anneaux.
Oui.
Même si effectivement stylistiquement c'est pas forcément la meilleure approche et ça peut rebuter, mais il y a aussi Bilbo le Hobbit, il y a aussi d'autres passerelles.
On se fixe mais... 5, non.
Mais effectivement, des, enfin, en littérature française, on en a un bon paquet, peut-être à découvrir en premier lieu, puisque la langue y est peut-être plus adaptée.
Ouais, plus facile d'accès.
La culture, les références culturelles.
Oui, c'est ça. Ouais. Ne serait-ce que ça. En éditeur, est-ce que peut-être c'est ça, on peut aussi faire confiance à des éditeurs pour explorer un catalogue. Est-ce que vous avez des éditeurs à nous conseiller?
Il y en a un premier qui me vient à l'esprit, moi, dont on a parlé tout à l'heure, la librairie éditeur La Talente à Nantes.
Tout à fait. Ouais.
Sinon, il y a un trio dans la région Rhône-Alpes qui s'appelle Les Indés de l'Imaginaire et qui regroupe Mnemos, Les Moutons Électriques et ActuSF. Mmh.
Voilà, on peut aussi citer Rivière Blanche quand même pour le côté œuvre à part, enfin le petit côté amoureux du livre. Philippe Vart qu'on avait invité justement qui travaille, on est presque sur de la micro-édition. Hein.
Mais c'est chouette et nous on a à cœur ici de défendre les toutes petites maisons, comme quoi il y a du boulot qui se fait bien.
Ouais, et on peut pas manquer quand même de les citer parce que c'est quand même le rouleau compresseur sur le marché qui est Bragelonne et Milady en tant que Milady en tant que label.
Mm-mm. Tout à fait.
Voilà, mais il y en a plein d'autres, il y en a énormément, il y a l'Archipel.
Ouais, et puis il y a aussi des éditeurs pas du tout dans l'imaginaire qui sortent des romans moi, j'associe aux littératures de l'imaginaire, mais sans le dire. Des fois que ça ferait peur aux gens, on dit rien, on publie le truc et on les laisse. Mais c'est vrai, hein, ça casse une barrière, mais...
Il y a un auteur qui fait ça, hein, je pense à Sir Cédric, qui écrit résolument du thriller fantastique, mais qui classe désormais systématiquement en thriller ses œuvres.
Ouais. Bah ouais, mais ils le font surtout quand c'est à la frontière thriller-polar, là, c'est... On ne dit pas trop que c'est de l'imaginaire. On ne sait jamais, des fois que ça effraierait le lecteur. Donc là, c'est bien aujourd'hui, on va enlever ces peurs-là. Enfin, on va essayer en tout cas.
Puis on va citer un éditeur numérique, Multivers, qui est récent, qui réédite des livres au format numérique.
D'accord, c'est de la réédition.
C'est de la réédition.
Des livres
essentiellement.
Qui sont complètement épuisés aujourd'hui chez les éditeurs.
Certains, oui.
Certains. Mmh. Pour moi, pas tous. Je découvre tout juste leur catalogue. Hein. J'ai commencé à discuter avec eux. Et effectivement, ils ressortent des œuvres un peu anciennes, mais avec des grands noms.
D'accord. Donc ça se développe aussi en numérique, pardon.
Oui.
Et pour revenir dans l'Ouest, il y a les éditions critiques à Rennes.
Oui, quand même, c'est vrai. Bon, là, on a... Et puis, effectivement, La Talente, grosse maison sur le marché. D'ailleurs, c'est eux qui sont représentants sur la 25e heure, on en parlait tout à l'heure, qui font un superbe travail en librairie et en édition.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est une librairie aussi.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est une très belle librairie. Je vous invite tous à y faire un petit tour. Et en plus, ils sont pas affables, ils sont faciles d'accès. Donc vraiment, si vous avez besoin de conseils aussi, allez-y. C'est eux qui ont Terry Pratchett au catalogue, hein, il me semble, en France.
Oui, c'est ça. Oui. Donc là, c'est un des grands. Voilà.
Si vous aimez les nains, les tortues et autres petites choses sympathiques.
Fixation d'univers
entier. Foncé.
Si vous aimez Terry Pratchett, pensez à Catherine Dufour qui a écrit un cycle qui fait quand même penser en termes d'état d'esprit à l'œuvre de Pratchett.
Ah bah super, voilà.
Bon, Catherine Dufour, ça fait trois fois qu'on entend son nom, je crois qu'il faut le retenir et aller voir.
On va y aller. On fait une nouvelle petite pause musicale. Et puis on revient vous parler un petit peu plus en détail du steampunk, de vos auteurs invités et puis en plus encore si vous avez envie.
Ouais, et on va s'écouter tout de suite R avec Kelly Watch the Stars.
Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 et nous retrouvons Hélène et Lydie pour Passerelle.
Et oui, vous êtes bien dans ce samedi après-midi en compagnie de Passerelle et de Passerelle.
Une double
avec Christine et Alan pour nous parler donc de l'événement Passerelle à la médiathèque de l'Espal samedi prochain à 14h30 dans la salle des comptes.
Bien résumé.
En gros, c'est ça. Et donc, la thématique de cette année, c'est le steampunk.
Mais c'est quoi le steampunk ?
Alors, ça n'est pas un gros mot, non, non.
Non. Non, mais ce n'est pas un genre musical non plus.
Le punk, on aime bien ici, donc il n'y a pas de souci.
En fait, pour commencer à en parler, je vais citer la phrase de Douglas Fetherling à propos du steampunk. Le steampunk s'efforce d'imaginer jusqu'à quel point le passé aurait pu être différent si le futur était arrivé plus tôt.
D'accord.
Okay. Alors attends,
tout
que je remette ça
c'est
dans
bon,
le bon
je peux
sens. C'est, ah oui, oui. Mais oui, ça demande peut-être un peu plus, quelques éclaircissements quand même, j'avoue.
C'est assez difficile, on a discuté pas mal ouais. avec Christine sur le sujet, mais là, si vous aviez un auteur qui écrivait ce qu'a écrit Jules Verne maintenant, ça serait du steampunk. Vous prenez exactement les oui. écrits de Jules Verne. Donc il l'a écrit à son époque, mmh, en avance mmh. sur son temps, donc c'est de l'ASF.
Ouais.
Mais s'il l'avait écrit maintenant, avec le recul, ça peut être un indicateur steampunk. Autrement, pour les amateurs de cinéma, Wild Wild West.
Oui, c'est ça, totalement.
Ah oui, d'accord.
Ok.
On est de toute façon dans l'histoire parallèle, donc l'Uchronie dont on parlait tout à l'heure.
Ouais.
Et ce qui est propre au steampunk, c'est qu'on est à chaque fois au 19e siècle. Du moins, le steampunk au départ, ce sont des romans qui se situent dans l'atmosphère londonienne du 19e siècle.
D'accord. Ouais, c'est un côté, un petit peu, c'est l'imagerie qu'on peut en avoir quand on visualise le steampunk. C'est un garçon avec un chapeau haute forme et...
Sherlock Holmes,
oui, voilà,
c'est Jacques l'Éventreur,
cette
atmosphère-là.
De la vapeur et des lunettes bizarres.
Oui. Hein. Bah oui, parce que pour les non-anglophones, Tiffaine, si tu nous écoutes, oui. te salue. Steam, ça veut dire vapeur.
Voilà. Voilà, donc dans cette Angleterre qui n'a pas existé, les auteurs imaginent que l'énergie première, c'est la vapeur.
D'accord. Et le côté punk ?
Ça, c'était un jeu de mots, comment dire, une... Oui, un jeu de mots par rapport aux trois auteurs américains qui ont écrit un premier livre. Ils sont tombés tous les trois sur un livre qui traitait de Londres, des bas-fonds au 19e. Ils ont
D'accord.
trouvé que c'était un décor très fort, un bon point de départ pour une histoire qu'ils ont inventée tous les trois. Et comme dans les années 70-80, il y a eu le cyberpunk, ils ont appelé ça steam, bon, pour le côté vapeur,
D'accord.
et punk parce qu'il y avait cyberpunk déjà comme mouvement.
Okay. Mmh,
après, ouais. on peut peut-être trouver d'autres explications, mais voilà, moi, c'est ce
et
que je
le punk
connais.
Est né à Londres aussi, donc en fait,
ouais, puis dans les mêmes années finalement.
Tout ça se tient.
Ouais. Pour citer un du trio, je me souviens d'un, c'est Blaylock avec Homunculus. Mmh. C'est le titre qui me reste à l'esprit.
D'accord. Donc il y a ces trois auteurs là, et moi je ne connais rien au steampunk, mais j'ai quand même essayé de lire un peu avant. Histoire de faire ses devoirs correctement. Et je lisais que c'était William Gibson qui est souvent reconnu comme le premier vrai auteur de steampunk. Vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que c'est un peu tiré par les cheveux parce que quand même avant il y a eu des choses.
Alors je pense que Gibson s'en revendique pas en tous les cas.
Ouais. Voilà. Oui, c'est peut-être une étiquette qu'on
voilà,
lui colle.
De la même façon, Blaylock et le trio, quand on lit un peu les interviews qu'ils donnent, c'est plus pour une farce. Voilà, ils se revendiquent pas non plus de, ouais. des porteurs d'un genre particulier, etc. Je pense que c'est plus, il y a eu différents éléments qui ont surgi en même temps. Et eux, ils ont donné le nom, donc voilà. Mais
ouais. Et après,
je crois que Gibson, c'est pour neuromancien, je crois qu'on le ouais. prête ce
ouais,
rôle-là, essentiellement.
D'accord. Et alors, du coup, ça, tu parlais de films tout à l'heure, donc ça, le steampunk a débordé de la littérature finalement.
Qui est le premier maintenant? On ne sait pas.
C'est la poule ou c'est l'œuf?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on a la littérature qui sert de point d'ancrage pour des œuvres de cinéma, mais on
ouais.
a aussi l'inverse.
Ouais.
Je pense que tout est apparu en même temps. C'était peut-être une question d'époque.
Finalement, c'est un mouvement plus large qu'un simple genre littéraire.
Oui, c'est beaucoup, beaucoup plus large. Et en fait, c'est la partie émergée d'un, on va dire, d'un gros iceberg qui s'appelle le rétrofuturisme.
D'accord.
Et qu'on retrouve dans le monde de la BD, dans la musique, dans Dans les vêtements, puisqu'il y a des rencontres entre vaporistes, puisque donc les accros s'appellent les vaporistes, ils s'habillent donc avec des costumes qu'ils font eux-mêmes. Ça concerne beaucoup de domaines de la société, quoi. Ouais. C'est beaucoup plus large que le roman tout seul.
Mais c'est un côté aussi un peu nostalgie. Enfin, il y a le côté nostalgique de ce qu'on a.
Bah, quand on lit un peu ce que les auteurs en disent, pas forcément, pas tous. Certains, d'accord, oui, etc. Si on reprend Johann Elliott, je pense que quand il a écrit La Lune, si on lit, j'ai lu une de ses interviews, il n'avait pas l'intention d'écrire du steampunk, en fait.
D'accord, donc c'est toujours pareil. Ce sont des étiquettes qu'on peut coller. Après, les étiquettes ne sont pas forcément négatives, non, parce que ça nous permet aussi de nous raccrocher à des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, à découvrir d'autres choses.
Ouais.
Si vous avez aimé les ouvrages de Johann Elliott, du coup, vous avez découvert le steampunk, en fait, sans le savoir, certainement. Mmh. Ce mot qui fait peur, d'ailleurs, en fait, devrait pas, puisque finalement, vous en avez sûrement peut-être déjà lu sans le savoir.
Mmh. Beaucoup de gens, tu citais Wild Wild West, ouais, beaucoup de gens l'ont vu, c'est du steampunk.
Tout à fait.
La série aussi, d'ailleurs, hein, enfin, pas uniquement la série qui est beaucoup plus ancienne, a aussi des clés steampunk. Alors, je ne veux pas me tromper, mais je crois que le terme n'existait pas à l'époque de la série.
Comme quoi.
Et alors, Steam Boy, le dessin animé japonais, là, ça fait partie du steampunk,
oui,
ça?
Oui, ouais. Ouais.
C'est bien bon, elle sert la question. Là.
Alors, pour
ajouter, donc, au décor londonien, l'histoire parallèle, une histoire qui n'a pas existé, et il y a souvent un côté décalage, humour.
Mmh, ouais.
Et puis le fait que dans un même roman on peut rencontrer un auteur ou un personnage réel et un personnage fictif.
D'accord.
Exemple, on peut trouver dans un roman Jules Verne et puis le capitaine Nemo.
D'accord. Alors, ça c'est une question intéressante aussi.
Et pour rebondir sur ce qu'Alan disait tout à l'heure en parlant de frontières poreuses entre les genres.
Oui, enfin il y a la dominante science-fiction, fantasy, etc. n'est pas forcément systématiquement très marqué dans l'élément. Quand on parle des feuillets de cuivre, finalement, c'est pas le cœur du sujet.
Les feuillets de cuivre, c'est
l'œuvre de Fabien Clavel.
Ok,
d'accord. Un des auteurs qui vient s'amener.
Et une particularité quand même à ajouter par rapport à la SF, parce qu'on le rapproche souvent de la SF.
Science-fiction.
La science-fiction. Par rapport à la science-fiction, il y a moins de rigueur scientifique. C'est pas le.
D'accord.
On n'a pas cet élément-là. C'est pas important.
Là, on est dans l'histoire parallèle et l'auteur n'est pas obligé d'expliquer pourquoi tout à coup l'histoire a bifurqué. Mmh. On prend les choses à partir du point de départ qu'il nous donne et l'histoire se déroule.
Alors c'est peut-être mon imaginaire à moi, mais quand j'entends steampunk, quand je visualise, je vois des inventeurs fous, je vois des constructions, je vois
des ballons dirigeables,
par exemple,
le tour du monde en 80 jours, non?
Oui. Oui. Entre autres, est-ce que ça fait partie du genre ou est-ce que c'est juste l'imaginaire qu'on lui colle aujourd'hui, enfin la visualisation de cet imaginaire qu'on lui colle aujourd'hui?
Pour moi, ça en fait partie et je vous invite à regarder les dessins de Didier Graffé. Qui a beaucoup beaucoup travaillé sur le sujet. Il y a de beaux livres qui sont sortis avec ses œuvres.
Bon. Et donc deux invités quand même dont on n'a pas tout à fait parlé, mais on a cité quand même quelques-unes de leurs œuvres qui sont Clavel et Elliot. On n'arrivera pas à trancher aujourd'hui, mais
la réponse sera samedi prochain, 23 avril. Donc vous savez ce qu'il reste à faire.
Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner deux, trois œuvres de ces auteurs, Christine?
Alors, Johann, lui, mis à part la trilogie de la Lune, que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup apprécié aussi un diptyque, donc un ensemble de deux romans, Fairy Hackers et Fairy Thrillers, dans lesquels aussi il mélange le monde réel, le monde de la fantaisie, un peu de technologie, un vrai régal. Voilà, je voudrais juste ajouter, en fait, par rapport au fait de lire ou non des littératures, la littérature de l'imaginaire, moi, ce qui me plaît, c'est justement ce mélange possible. Le fait qu'il n'y a pas de frontières, ou alors elles sont poreuses. Mmh. Et du coup, ça donne énormément de possibilités, et c'est génial.
Oui, parce que toutes les portes sont ouvertes, en fait.
Pardon?
Toutes les portes sont ouvertes.
Voilà.
Ouais.
Oui, parce qu'il y a du polar, qui se situe à cette période-là, avec ces codes-là, reste du polar, mais c'est une esthétique particulière. Il y a sûrement des romans d'amour qui pourraient se passer au temps du steampunk. Enfin, il y a, voilà. voilà, il y a plein de choses.
Il y en a sûrement chez Arlequin.
Oui, mais il y en a en plus, possiblement, parce qu'il y a une collection historique chez Arlequin.
Et Fantasy aussi.
Et Fantasy, tout à fait, bien sûr.
Alors, ils ont vraiment expérimenté chez Arlequin.
Tout à fait. Donc, un jour, on fera un spécial Arlequin. Non, mais oui, parce que je tiens, il y a un code couleur, vert c'est hôpital, violet c'est passion, marron c'est historique. Bon, je vais pas tous les faire maintenant, je ferai une émission spéciale.
On fera un point sur les couvertures aussi sublimes de la collection Arlequin.
Non, mais il y a beaucoup à dire sur Arlequin. Je voudrais pas leur faire trop de publicité non plus, mais ils en ont pas besoin.
Donc, c'est pas très grave.
Par contre, tu nous as parlé de la trilogie de la Lune. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'histoire?
Sans tout dévoiler, de toute façon, on n'aurait pas assez de temps parce que c'est une trilogie. Alors, on est donc fin 19e siècle, dans une histoire parallèle. Jules Verne revient des États-Unis. Il est appelé à l'aide, puisque donc Napoléon III est au pouvoir en France, mais des Ishkis, des extraterrestres, se sont arrêtés sur Terre. Ils se sont alliés au pouvoir en place, donc Napoléon III, et du coup, c'est une dictature qui s'est installée. Et les communards, l'équivalent des communards, est envoyé au bagne sur la Lune.
Super. D'accord.
Donc, le premier volume s'appelle « La Lune seule le sait ».
Voilà, ça plante un décor. Ouais.
Ça tient du roman feuilleton, du roman d'aventure. Il y a des personnages hauts en couleur, dont un commissaire qui a réellement existé, qui était apparemment comme ça. Mais il faut vraiment pas le rater, celui-là. c'est du pur bonheur. Il y a plein de clichés, particulièrement dans le 2 et encore plus dans le tome 3, de clins d'œil par rapport à des personnages, à leur politique, par rapport au monde du cinéma, de la musique et autres. C'est un vrai régal.
Ah ben voilà.
C'est l'œuvre qui est considérée comme la première en steampunk français.
Voilà. D'accord.
Voilà. Oui. Et elle se passe pas à Londres pour le coup.
Oui, donc c'est bien. Chez nous aussi, il se passe des choses.
Et autrement, pour la semaine prochaine, pour faire vos devoirs, faut lire les feuillets de cuivre de Fabien Clavel. Du coup.
Alors, parle-nous-en un petit peu plus.
C'est assez compliqué à expliquer en quelques mots. C'est l'évolution d'un il n'est pas commissaire, d'un inspecteur au cours de différentes enquêtes avec une histoire par rapport à sa femme, etc. C'est difficile de l'expliquer comme ça. Faut vraiment rentrer dedans et
donc c'est là on a une intrigue très policière en fait.
Très policière.
À partir de quel est l'élément
déclencheur de quelque chose
ou steampunk
C'est l'environnement.
C'est l'environnement. Ouais, c'est le contexte.
Par petite touche assez légère. Mm-hmm. Contrairement à Joan Elio où là on est vraiment
c'est
plein
l'inverse.
Dedans.
Ces livres-là, ils sont publiés chez quels éditeurs?
La trilogie de la Lune chez Mnemos et chez ActuSF pour Fabien Clavel.
D'accord, ok.
On essaiera de vous mettre tout ça comme d'habitude sur le Facebook de l'émission pour que vous puissiez retrouver les références.
Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres coups de cœur à nous partager, Alan, Christine, ou est-ce que vous gardez toutes vos surprises pour la semaine prochaine?
Semaine prochaine.
Ah, oui, on ne va pas tout dire maintenant.
Non, mais.
Et alors, en dehors du steampunk, si vous aviez un livre à mettre entre les mains de quelqu'un qui veut lire un bouquin littérature de l'imaginaire, vous lui mettriez quoi? Oui, je sais, c'est une question difficile, mais je vous la pose quand même.
Eh bien, moi, je vais répondre par un livre que j'ai lu tout récemment et que j'ai vraiment énormément apprécié et qui s'appelle Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro.
D'accord.
Le livre est paru début 2015.
Ouais.
Et en plus, il a l'avantage de pas être, c'est pas un pavé, contrairement à certains livres de fantasy qui sont énormes et qui se perdent dans les descriptions. C'est un bonheur de lecture, aussi bien par la trame que grâce aux personnages et planté dans un décor historique, des faits réels qui sont passés en France que j'ignorais totalement.
D'accord.
Je crois que beaucoup de gens ignorent. Je vais pas en dire plus pour l'instant, mais voilà. Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro.
C'est noté. Alan?
Je demanderai un peu plus de renseignements quand même sur les goûts, hein, malgré tout.
Ouais, mais avant de conseiller quelqu'un. Ouais.
Et le tien, si tu avais un livre à emmener sur une île déserte, puisque c'est a priori ce qu'on lit. Ou sur la Lune.
Ça sera difficile, mais celui que je recommande systématiquement à ceux qui veulent découvrir la fantasy, c'est celui que je citais tout à l'heure de Pierre Grimbert, Le Secret de J.
Okay.
Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de déçu.
Ok. Bon, bah super. Hélène, toi, est-ce que t'as des ouvrages fantastiques?
Ben, c'est pas un genre, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est pas quelque chose que je lis beaucoup, parce que je ne sais pas tellement par où commencer, j'avoue. Donc je regarde plus de films fantastiques que je ne lis de livres fantastiques. Donc, non. Non, là comme ça, non, j'avoue que j'ai pas trop j'aurais pas trop de conseils à donner.
Et ben oui, bah, ou de vos libraires aussi, ouais. De vos bibliothécaires, de bah, Fantastinette, ça peut.
De vos copains qui en lisent.
Ouais,
aussi.
Voilà. Moi, je vous conseillerais, alors dans un tout autre genre dont on n'a pas parlé, mais puisque moi j'ai une sympathie pour The Devil peut-être, mais surtout sympathie pour le gothique en particulier. Le roman gothique qui a inspiré effectivement toute la partie vampire ouais. D'aujourd'hui. Très exploité, voire surexploité. Mais je conseillerais Carmilla de Le Fénu.
Ouais.
Parce qu'on revient complètement aux sources du roman classique, gothique, toute l'imagerie gothique qu'on a pas du tout, qu'on a un peu complètement usurpée et déflorée ces dernières années, avec des vampires blafards et.
On ne citera pas.
Et végétariens. Enfin voilà.
Non, ouais, mais sinon, ils sont pas gentils s'ils sont pas végétariens, alors bon.
Non, non, mais c'est très. Mais en plus, je n'ai rien, absolument rien contre les
vampires végétariens.
Les, non, bon, pas plus que ça. Mais oui, je vous conseillerais celui-là et puis plein d'autres. Red Bradbury, vraiment, allez-y. Moi, je suis désolée, je suis plutôt anglophone, enfin anglo. Ouais.
Ben, oui,
anglophile
mais,
même, voire.
Mais c'est vrai que finalement, je me rends compte que ce que j'ai lu, c'est des classiques, en fait.
Oui.
Le meilleur des mondes.
Bah voilà.
Oh ouais, mais 1984. Mais si, 1984, mais oui. Il faut lire 1984.
Surtout aujourd'hui. Il faut ouais. Le relire maintenant et on se prend une petite claque. Parce qu'on
c'est dit... plus de l'ASF.
Bah, non, voilà, non, c'est de la réalité et ça fout les jetons.
Et un petit peu, quand même. Bah on va se quitter là-dessus, non sans vous rappeler que la semaine prochaine, vous avez. Besoin d'avoir le don d'ubiquité, puisque à 14h, il y aura Passerelle ici, et à 14h30, il y a Passerelle chez vous, à l'Espal, donc avec Joanne Hilliot
et
Fabien Clavel. Merci beaucoup, Christine, merci beaucoup, Alan, d'être venu sur ce plateau pour nous parler de vos lectures et puis de cet événement. Vous êtes les bienvenus, hein, vous revenez quand vous voulez pour nous parler de ça ou d'autres choses, de d'autres littératures peut-être un jour.
Ouais. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci.
Nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Ouais, toujours. Normalement, samedi prochain, normalement, à 14h, si tout va bien. Et puis d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les internets.
Et n'hésitez pas si vous voulez venir en plateau. Je sais que j'en ai encore deux sous le coude. Rudy Guillemin.
Oui, j'allais dire. As-tu reçu un mail de
oui,
Rudy?
Non, je l'ai croisé. Donc vous êtes convié sur notre plateau puisqu'il fallait apparemment faire une invitation en règle à Rudy.
D'accord.
Donc Rudy Guillemin. Voilà. Je vous invite à venir en plateau parler de vos littératures.
Et c'est la seule fois où on te vous voit.
Ah oui. Mais on te verra tout le long de l'émission, ce sera super. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous retrouve donc la semaine prochaine. Vous étiez dans Passerelle qui rencontrait Passerelle. À bientôt.
Salut.